son père ne l'avait encore jamais frappé. Lorsqu'il le fit, lorsqu'il lui donna une claque juste au-dessus de l'oreille, fort, sans prévenir, et du plat de la main, des larmes de surprise montèrent aux yeux d'Abdullah qui les refoula aussitôt. « Rentre à la maison. » Au-dessus de lui, Paris éclata en sanglots. Puis il reçut encore une gifle, plus forte que la première, et cette fois sur la joue gauche. Sa tête fut projetée sur le côté et la brûlure lui arracha de nouvelles larmes. L'oreille bourdonnant encore, il vit son père se baisser et se pencher si près de lui que son visage ridé à la peau mate éclipsa tout à la fois le désert, les montagnes et le ciel. « Je t'ai dit de rentrer à la maison, mon garçon, » répéta-t-il, l'air peiné. Abdullah ne souffla mot et, protégé par son ombre, il se contenta de cligner les yeux face à lui.
« Abdullah !»
cria Paris, d'une voix suraiguë et pleine d'appréhension du haut de la petite charrette rouge. Son père posa sur lui un regard glacial pour le dissuader de bouger et revint vers la carriole. De son lit, Paris tendit les mains vers Abdullah. Celui-ci les laissa s'éloigner un peu avant de s'essuyer les yeux et de les suivre. Au bout d'un moment, son père lui jeta un caillou, comme le faisaient les enfants de Chatbar avec le chien de Paris, Shuja. Sauf que, il voulait vraiment le blesser. Ce caillou-là, bien inoffensif, atterrit à quelques pas d'Abdullah. Il attendit, et lorsque la carriole se remit en route, il continua lui aussi à avancer dans son sillage. Pour finir, juste après que le soleil eut passé son zénith, son père s'arrêta, se retourna vers lui avec l'air de réfléchir, puis lui fit signe d'approcher. « Tu ne renonces pas, hein ?» Paris tendit de nouveau une main hors de la charrette et la glissa vivement dans celle d'Abdullah. Le regard larmoyant, elle lui décocha son sourire aux dents écartées, comme si rien de mal ne pouvait lui arriver tant qu'il serait à ses côtés. Abdullah referma les doigts autour des siens, ainsi qu'il le faisait chaque soir quand ils dormaient dans leur lit, tête contre tête, les jambes emmêlées. « Tu étais censé rester à la maison, avec ta mère et Iqbal, comme je te l'avais dit. »« Avec ta femme, tu veux dire, » songea Abdullah. « Ma mère, on l'a enterré. » Mais il avait appris à ravaler de telles paroles avant qu'elles ne franchissent ses lèvres. « Très bien, suis-nous. Mais je ne veux pas de pleurnicherie, tu m'entends ?»« D'accord. Je te préviens, je ne le tolérerai pas. » Paris adressa un sourire rayonnant à Abdullah qui contempla ses yeux clairs et ses belles joues roses en lui souriant lui aussi. À partir de ce moment-là, il marcha à côté de la petite charrette qui allait cahotant sur le sol crevassé du désert, tout en tenant la main de sa sœur. L'un et l'autre se jetaient furtivement de joyeux coups d'œil, mais ils veillaient à ne pas trop parler, de peur de mettre leur père de mauvaise humeur et de tout gâcher. De longs moments s'écoulèrent, durant lesquels ils restèrent seuls tous les trois, sans voir rien ni personne hormis des ravins rouges cuivre et de hautes falaises de grès. Le désert s'étendait à l'infini, comme s'il avait été créé pour eux et rien que pour eux, et sous la haute voûte du ciel bleu, l'air brûlant semblait pétrifié. Les rochers luisaient sur la terre craquelée, Abdullah ne percevait aucun bruit en dehors de sa propre respiration et du grincement répété des roues à mesure qu'ils avançaient vers le nord. Plus tard, ils s'arrêtèrent pour se reposer à l'ombre d'un bloc rocheux. Leur père grogna et laissa tomber par terre les manches de la charrette. Le visage tourné vers le soleil, il grimaça en cambrant le dos. « Combien de temps nous reste-t-il avant d'arriver à Kaboul ?» demanda Abdullah. Son père baissa la tête vers lui. Il s'appelait Sabour. C'était un homme à la peau sombre, aux traits durs, anguleux et osseux, au nez crochu comme le bec d'un rapace et aux yeux caves. Il n'était pas plus épais qu'un roseau, Mais une vie passée à trimer lui avait donné des muscles puissants, aussi serrés que les bandes de rotin autour des bras d'un fauteuil. « Demain après-midi, » répondit-il, en portant l'outre en peau de vache à ses lèvres. « À condition de ne pas l'embiner. » Il but une grande gorgée qui fit aller et venir sa pomme d'Adam. « Pourquoi oncle Nabi ne nous a pas emmenés ? Il a une voiture ?» Cette remarque ne valut à Abdullah qu'un coup d'œil exaspéré. « On n'aurait pas eu besoin de marcher autant, » ajouta-t-il. Sans répondre, son père ôta sa calotte maculée de noir de fumée et essuya la sueur sur son front avec la manche de sa chemise. « Regarde, Abola !» s'exclama soudain Paris en pointant un doigt hors de la charrette. « Encore une !» Abdullah suivit son regard jusqu'à une longue plume, d'un gris semblable au charbon brûlé, qui gisait par terre à l'ombre de la roche. Il alla la ramasser par la tige et souffla sur les moutons de poussière qui la recouvraient. Un faucon, ou peut-être une colombe, ou une amomane du désert. Il en avait aperçu quelques-unes ce jour-là. Non, plutôt un faucon. Il souffla de nouveau sur la plume et la tendit à sa sœur qui s'en empara gaiement. Chez eux, à Chadbar, elle gardait sous son oreiller une vieille boîte à thé en étain qu'Abdullah lui avait donnée. Le fermoir était rouillé et le couvercle représentait un indien barbu, vêtu d'un turban et d'une longue tunique rouge, qui tenait une tasse de thé fumant dans ses mains. C'était dans cette boîte qu'elle rangeait sa collection de plumes, son bien le plus précieux. Des plumes de coq vert, sombre ou bordeaux, une blanche provenant de la queue d'une colombe, une de moineau, marron terne et parsemée de taches noires, et enfin, celle dont elle était très fière, une plume de paon, d'un vert iridescent, avec un bel œil à l'extrémité. Abdullah lui en avait fait cadeau 2 mois plus tôt, après avoir entendu parler de ce garçon dans un autre village dont la famille possédait un paon. Un jour que son père était parti creuser des fossés dans une ville au sud de Chadbar, il était allé voir le gamin et lui avait demandé une plume de l'oiseau. Une négociation s'était ensuivie, au terme de laquelle il avait accepté de céder ses chaussures en guise de paiement. Le temps qu'il rentre à Chadbar, la plume de paon coincée dans la taille de son pantalon, ses talons blessés laissaient des traces de sang sur le sol. Des épines et des échardes s'étaient enfoncées sous la peau de ses pieds et chaque pas lui occasionnait une douleur cuisante. En rentrant chez lui, il avait surpris sa belle-mère, Parwana, occupée à faire du nan dans le tandoor devant leur maison. Il s'était aussitôt caché derrière le chêne géant qui poussait près de chez eux et avait attendu qu'elle termine. Penché derrière le tronc, il avait observé travailler cette femme aux larges épaules, aux bras longs, aux mains rugueuses et aux doigts boudinés, cette femme au visage rond et bouffi qui ne possédait rien de la grâce du papillon dont on lui avait pourtant donné le nom. Abdullah aurait voulu pouvoir l'aimer comme il avait aimé sa propre mère, morte des suites d'une hémorragie à la naissance de Paris, 3 ans et demi auparavant, alors qu'il avait 7 ans. Mère dont les traits s'étaient presque effacés de sa mémoire et qui prenait son visage entre ses mains pour l'attirer vers elle, qui lui caressait la joue tous les soirs en lui chantant une comptine avant qu'il s'endorme. J'ai trouvé une triste petite fée à l'ombre d'un arbre en papier. Je connais une triste petite fée que le vent un soir a soufflée. Il aurait aimé pouvoir aimer Parwana de la même façon. Et peut-être le souhaitait-elle aussi en secret, pouvoir l'aimer, lui. Tout comme elle aimait Iqbal, son fils de 1 an, qu'elle ne cessait d'embrasser et pour qui elle se rongeait les sangs à la moindre toux, au moindre éternuement. Ou comme elle avait aimé son premier bébé, Omar. Lui, elle l'avait adoré.